La littérature algérienne de langue française, et le roman en particulier, est née dans des conditions historiques que chacun connaît et qui ont fait de l'imposition de la langue française et des normes littéraires de la culture française le courant de la vie des Algériens, de la vie culturelle en Algérie. Donc, en adoptant la langue et la forme générique de l'étranger, les auteurs, comme dit, les auteurs de sa génération, s'engagent dans un procès de redéfinition identitaire. Et c'est une redéfinition de taille. Et Dib va pointer précisément le lieu stratégique où cette redéfinition identitaire se manifeste. Et c'est la théâtralisation précisément des genres, quels que soient, enfin qu'ils soient d'ordre littéraire ou d'ordre sexuel. C'est un lieu privilégié pour examiner à la fois les télescopages, les interactions, les multiples références linguistiques, philosophiques, mythiques, génériques, etc. Donc, d'entrée de jeu, la route, en quelque sorte, est indiquée. C'est dans cette direction qu'il va redéfinir son identité et en la redéfinissant en tant que ce qu'il est en tant qu'individu. D'entrée de jeu, il s'oriente vers la poésie, la nouvelle et le conte. Il ne commence pas par le roman. La poésie, autrement dit, tout en écrivant en français, il choisit spontanément les formes usuelles du terroir. La poésie, c'est l'expression littéraire par excellence de la littérature arabe, telle qu'elle est diffusée au Maghreb, sous sa double forme, à la fois élitiste et populaire, essentiellement d'ailleurs dans la chanson andalouse. La nouvelle, c'est la forme même de la maqama, la séance mise à l'honneur par l'Hariri et qui a été illustrée par El-Waseti, dont Khaddad disait que c'était le premier peintre moderne de l'histoire arabe, donc dans cette abstraction. Quant au conte, c'est le prototype même de la création littéraire orale. Donc, ce sont des formes génériques qui sont celles du terroir. Il commence par le premier poème publié, Vega, qui évoque l'Andalousie de l'amour et des arts. Donc, la référence culturelle est posée. Mais le roman va s'imposer à lui parce que on est dans un contexte de revendications nationales et nationalistes, et qu'on fait devoir aux écrivains et aux intellectuels de façon générale de se prononcer sur cette question politique. Dib adopte le roman dans sa forme classique, qui est la forme diffusée par l'école. Et donc, c'est les deux piliers de ce genre, à la fois le vraisemblable, la vraisemblance, et la description, qui sont les deux piliers du roman réaliste. Mais tout de suite, et donc dès la trilogie, ça on le voit rétrospectivement, mais dès le début, dès la trilogie, ces deux piliers du roman classique sont remis en cause. En tout cas, le roman classique est fissuré de toutes parts par un travail qui, au nom de la vraisemblance, introduit la parole de l'indigène, comme on disait alors, pour respecter la conformité au réel, mais qui instaure d'emblée une compétition entre les genres littéraires du terroir et le genre romanesque d'importation. Ce qui produit une force explosive qui est de même nature que la force de cette poésie fortuite que l'on obtient dans la bouche des enfants, ou que l'on obtient quand on fait une traduction littérale d'une langue à une autre langue et qu'on a des effets poétiques qui n'étaient pas attendus, mais qui sont là. Et donc, c'est de la même nature, cette force explosive. L'intérêt, un des intérêts du texte d'Œdipe, c'est que, en même temps que le geste d'écriture, il y a une réflexion critique sur le geste d'écriture. Et donc, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure de Bataille, ce ne sont pas des textes autonomes en dehors, c'est des textes qui sont intégrés dans la trame du récit et qui sont la critique de ce qui est en train de s'écrire, en quelque sorte. C'est pourquoi il y a toujours cette indécision du sens et ce retour en arrière, cette avancée, etc. Donc, la forme générique devient, sous la plume d'Œdipe, un moyen, une stratégie d'écriture et une stratégie pour trouver sa propre forme. À ce moment-là, en même temps, c'était les grands écrivains, les grands anglo-saxons qui étaient en train de découvrir leur propre forme, etc. Et Œdipe écrit que c'est la lecture de Steinbeck et de Caldwell qui lui a fait prendre conscience du fait qu'il lui était possible, à lui, qui n'était pas français, je cite, lui qui n'était pas français et qui écrivait en français, de faire œuvre d'écrivain sans s'intégrer dans aucun littéraire, dans aucun courant littéraire français. Donc voilà, il se dégage du carcan au moment même où il y entre, il s'en dégage. Et c'est ce pas décisif qui va lui permettre de décrocher du roman réaliste et de se lancer dans la quête de sa propre forme. Donc, la trilogie Algérie, que l'on a toujours étudiée de façon tout à fait scolaire et en tant que roman réaliste, elle est le théâtre de cette prise de conscience et en même temps, c'est l'œuvre qui opère un archivage des formes de l'oralité au sein de la forme hégémonique. Il apparaît donc qu'un tel changement de forme n'est pas un simple changement formel, bien entendu, il engage le sujet qui opère ce changement. De facto, à partir de là, Œdipe se déclare et apparaît comme propriétaire du genre et de la langue littéraire qui implique le sujet autrement qu'une langue de communication. Une petite parenthèse pour signaler que Œdipe, parmi les écrivains de sa génération, est le seul qui n'a pas fréquenté l'école coranique. Donc, sa culture du terroir, en quelque sorte, lui vient de son milieu familial et social. Or, c'était un milieu de musiciens, et c'est par la musique que passait la poésie, la grande poésie arabe. Et sa culture est une culture qu'il reçoit des femmes. Hein, c'est donc une culture essentiellement féminine. Dès l'incendie, il prend conscience de cette présence qui est une présence de l'oralité et il prend conscience des pouvoirs de la parole. Et le pouvoir de la parole va être un élément moteur dans toute son écriture. Le tahwif, qui est le chant traditionnel et qui est très pratiqué à Tlemcen, c'est à la fois un archivage, à la fois un répertoire, à la fois une forme littéraire et un cadre d'improvisation. Parce que quand les femmes chantent, elles adaptent à la situation qui est la leur les paroles. Il y a un canevas, mais de l'improvisation. Et donc, cette façon de procéder aurait comme imbibé, disons, l'imaginaire littéraire de Œdipe lui-même. Ce n'est pas un hasard si les grandes paroles qui se font entendre dans la trilogie Algérie, c'est la grande réunion des paysans de l'incendie et le chant de Mennoun. Mennoun, qui est la femme en instance d'être répudiée, marginale, etc. Or, le chant de Mennoun va avoir un effet magique. Ça se passe, bon, je rappelle, ça se passe pendant une perquisition de police, des policiers qui sont à la recherche du militant communiste Hamid Sarraj et qui viennent le chercher là. La maison est en branle-bas de combat et s'élève ce chant de Mennoun qui dit deux dominations, la domination coloniale et la domination des femmes par les patriarcats, par les hommes. Il y a donc ces deux dominations qui sont mises à égalité en quelque sorte et qui sont dénoncées dans le chant de Mennoun. Les policiers ne comprennent rien aux paroles, mais ils sont sidérés, la perquisition s'arrête, les policiers quittent la maison et le roman prend une nouvelle direction. Et donc on a ce chant qui organise l'avancée de l'action, alors même que dès la trilogie, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler dans les romans de Dib. Et c'est la parole et la force de la parole qui fait avancer l'action. Un autre exemple, et c'est dans le roman suivant qui, lui, va radicaliser le décrochement du modèle classique, c'est dans Un été africain. Dans Un été africain, Yemna, la maman de Zekia, qui est l'héroïne principale, en arrosant son jardin au petit matin, tout le décorum tlemcénien, chante le désespoir de sa fille, la guerre qui est en train de s'installer, tout ça de façon tout à fait allusive, selon les modalités qui sont les modalités du tahouif. Et donc, là aussi, c'est le chant de Yemna qui va donner sens à l'ensemble du roman, parce que le roman n'est pas constitué d'une histoire, il est constitué de petites nouvelles qui se succèdent avec des personnages qui n'ont rien, qui n'ont pas de relation les uns avec les autres, et donc, il y a une sorte de, comment dire, de tableau comme cela qui se met en place, auquel le chant de Yemna, le chant de la maman de Zakia, donne sa cohérence, donne son sens et permet de mettre les morceaux les uns avec les autres. C'est donc les prémices de la fabrique d'un nouveau roman. Un nouveau roman qui est un récit segmenté, sans intrigue, un roman qui nécessite une participation active du lecteur pour mettre en rapport les différents fragments qui le constituent. Une telle construction accentue la précarité de la fonction de héros qui a déjà été mise à mal dans la trilogie, et Dib retrouve, disons, par un chemin qui est le chemin de sa propre culture et de sa propre histoire, il retrouve les modalités de remise en cause du roman classique par les romanciers modernes, par le roman moderne. Avec « Qui se souvient de la mer » et « Cours sur la rive sauvage », il y a une radicalisation de cette rupture avec le genre romanesque dit classique, radicalisation de cette rupture, et tout se passe comme si il y avait une sorte de cure de désintoxication et que le vraisemblable tombe en désuétude. Il n'y a plus cette exigence des contraintes de l'illusion réaliste. Et c'est donc une nouvelle comédie humaine qui se met en place, une comédie humaine dégagée des contraintes donc de l'illusion réaliste. Avec ces deux livres fantastiques, le roman dit bien passe d'une peinture qui reste fidèle au référent à une représentation qui devient une représentation allusive, hallucinée, En somme, une représentation abstraite. Une représentation qui est un analogon de la réalité et non pas une description de la réalité, pas une représentation mimétique de la réalité. Dès lors, le cadre de l'évolution des futurs héros est planté. Ce ne seront plus des sujets pleins, détenteurs d'une histoire, mais des consciences inquiètes. Des consciences inquiètes qui enregistrent des signes et qui s'efforcent d'en déchiffrer le mystère. Leur regard embrasse les dysfonctionnements de leur environnement et leurs âmes aspirent à dépasser la cruauté de l'univers. Et c'est une cruauté qui est diffuse, qui est aussi bien cosmique que sociologique et qui donc augmente cette indécision du sens. Et la forme générique, dès lors, devient le lieu d'une quête de soi, d'une quête de soi-même. Et dans la danse du roi, qui est le premier roman écrit après l'indépendance, aussi bien d'ailleurs la danse du roi que un peu plus tard, Duhem Barbary et le maître de chasse, donc une sorte de néo-réalisme après les deux romans fantastiques. Dans ce roman-là, se joue une sorte de vision onirique de la réalité algérienne. On a trois personnages de premier plan qui sont la maquisarde qui a conduit des hommes. Et déjà là, on a, si vous voulez, une remise en cause de la figure féminine, maternelle, etc., qui même avec Nefissa, de qui se souvient de la mère, restait une figure conforme à un modèle esthétique, disons, de la féminité. On a cette clocharde qui reste guerrière et qui va continuer le combat et haranguer les foules pour dire que le combat n'est pas fini. On a l'ancien combattant citadin Rodouane qui est son alter ego et qui lui est dans la méditation philosophique, historique, critique de tout ce qui s'est passé. Et on a Babanag, le nabo, qui est le symbole du peuple déchu. Et donc, l'action va se jouer entre ces trois personnages, mais avec une multitude d'autres niveaux de narration, d'autres récits, d'autres personnages qui vont apparaître à plusieurs niveaux, de sorte que le roman est tout à fait éclaté. Hein, il n'y a plus de roman. Et c'est l'oralité qui va dominer. La complexité de la composition va de pair avec une vision sans concession sur la réalité de l'Algérie post-colonisation. Plus qu'une critique virulente du système, d'ailleurs tous les romans de cette époque, que ce soit Mourad Bourboune, que ce soit Boujédra, que ce soit Farès, etc., tous sont dans une violente critique du système qui s'est mis en place au lendemain de l'indépendance. Mais chez Dib, la particularité, c'est que cette remise en cause se conjugue avec un spectacle carnavalesque où la comédie, le drame, la tragédie se répondent en écho et donnent une sorte d'analogon de cette incohérence et de ce chaos qui, selon lui, représenterait la société et le nouveau pouvoir surtout. Avec le diptyque Duhem Barbary et le maître de chasse, la fiction entraîne le lecteur dans une autre exploration. Hein. Reda disait tout à l'heure, c'est un explorateur des genres. Une autre exploration, c'est-à-dire un autre mixage des genres littéraires qui narre une expédition au pays des ancêtres. Les ancêtres étant représentés par les paysans du pays profond qui organisent la résistance aux décisions qui leur sont imposées par la ville et par le pouvoir central. Le premier volet raconte des séances de débat entre des personnages, et donc là aussi l'oralité est très prégnante. Ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des personnages agissants, mais des personnages parlants. Et chacun rêve ou chacun expose une conception de la société qui n'est pas celle qui est en train de se mettre en place. Et donc on a des hypothèses intellectuelles, hein, des hypothèses de société idéale qui auraient pu se mettre en place. Par ailleurs, le texte italique, bon, moi, j'avais fait une étude tout au long de l'œuvre de Dieppe pour montrer à quel point le texte italique était un texte qui contredisait le texte en caractère romain. Donc on a deux voies possibles de déploiement du sens qui sont à la fois parallèles et qui se contestent l'une l'autre. Donc le texte italique va prendre de plus en plus d'ampleur et va renforcer le circuit du sens dévolu à la parole secrète. Et le secret, hein, la figure même du secret, est quelque chose qui est inhérent à toute l'œuvre d'Ibienne. Donc c'est le sens, l'italique prend en charge ce sens de la parole secrète, et cette parole secrète est porteuse d'un surplus de sens par rapport à ce qui est dit de façon dénotative, disons, dans le texte en caractère romain. Dans ces trois occurrences, la narration accentue sa dimension fictive en campant des personnages emblématiques qui sont les porte-drapeaux de différents termes du débat social. Ce ne sont pas des personnages qui agissent, mais qui représentent une orientation possible de la société qui n'a pas été prise ou prise à moitié. Donc, il déroule le spectacle d'une spéculation libre qui expérimente des possibles en lieu et place d'une représentation qui se voudrait conforme au vécu réel. Et c'est là qu'on entre dans une esthétique de l'abstraction, qui est diffuse, hein, tout au long, mais qui à mesure que l'œuvre se déploie, va s'accentuer. Dieppe a désormais répudié les fondements même du réalisme en tant que comportement social et discursif conventionnel, pour une forme chaque fois inédite, expérimentant ou inventant différents codes narratifs, différentes scénographies narratives. Donc les modèles narratifs sont, disons, répudiés et on passe à autre chose. En 1977, avec Abel, Dieppe va quitter la société algérienne, la société du roman, va se transporter dans le Paris où il est en exil, où il est en résidence depuis de nombreuses années déjà. Et donc Abel, dont le nom est déjà tout un programme à lui seul, se transporte à Paris et il va pousser ses pas, poser ses pas dans les pas à la fois d'Aragon et de Gide, c'est-à-dire de deux monstres de la littérature romanesque qui, chacun à sa façon, a réformé, transformé, rénové la narration. À partir de là, l'émigré ou l'exilé, quel que soit son nom, hein, que ce soit Edsel, tout ce qu'on voudra, va pousser ses pas vers un lointain horizon, un horizon plus lointain que le Paris déjà connu. Et le déport loin des contrées familières va faire surgir de nouveaux sujets d'étonnement, de nouveaux sujets de mystère, et va donc intensifier cette dimension fictive qui était déjà, disons, latente tout au début. Dès lors qu'il y a des visages inconnus, des situations inconnues, des contrées inconnues, un pouvoir de nomination nouveau s'impose. Et il revient au poète de donner à chaque chose très précisément un nom. Car derrière le nom, c'est de l'être même du quêteur qu'il s'agit. Et on a toute une problématique de la nomination qui va être réfléchie à l'intérieur du roman. Et c'est dans les terrasses d'Orsol que Talilo, un personnage très marginal, étrange et très fraternel en même temps, aborde le sujet devant un auditoire incrédule et il déclare de façon tout à fait péremptoire « Même le nom que tu portes, ce n'est pas ton nom. Vous le savez tous, hein, que votre nom n'est pas votre vrai nom. Votre vrai nom, c'est celui que vous emporterez avec vous dans la tombe. » Et donc, tout le système de nomination est congédié. Et Dib va revenir de façon plus explicite sur ce problème de la nomination et plus précisément sur le problème du nom, de la nomination des individus, en faisant remarquer que dans la tradition algérienne, la tradition arabe en général, le prénom n'a pas cours. L'élément fondateur de l'être, c'est le nom qui indique une généalogie et qui est le seul désignatif qui, partagé par toute la généalogie, partagé avec la généalogie et avec la divinité qui l'attribue. Donc vous avez une sorte de nom qui est dans le secret des cœurs. C'est une pratique qui a été éradiquée par l'état civil français quand il s'est installé en Algérie. Et il se trouve que dans le cas particulier de Dib, cet état civil lui a attribué un nom qui est un sobriquet, qui veut dire renard ou chacal, et un prénom qui est Mohamed et qui est monsieur n'importe qui, monsieur tout le monde. Le nom de Mohamed, c'est un indicateur d'islamité. Ce n'est pas, c'est une référence au prophète. Et quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est Mohamed pour lui adresser la parole. Donc, il a un nom qui est un sobriquet, un prénom qui est un nom commun, hein, finalement. Et donc, en méditant sur ce dilemme de la nomination, on constate une coïncidence ou un effet de cause à effet, je n'en sais rien, que tous les noms des personnages deviennent des noms fabriqués qui n'ont pas d'équivalent dans le référent ni français ni algérien, bon, dans aucun référent en tout cas. Ce sont des noms fabriqués de toutes pièces, donc des fictions de fictions. Waed, Madjar, tout ce que vous voulez, Akbar de tout à l'heure qui était très proche de Allahu Akbar, etc. Et donc, jusqu'au point de gommer le prénom, le personnage de l'immigré dans les terrasses d'Orsol qui va donner l'explication, le secret de cette crevasse où végètent des sous-humains, n'a pas de nom. C'est un frère indubitablement un frère, il reconnaît en lui un frère, mais il n'a pas de nom. Et les épisodes, les romans de l'exil vont additionner les épisodes où se joue le théâtre des signes à déchiffrer. On n'est plus devant, des incarnations, mais devant des personnages qui sont des signes à l'intérieur de genres qui sont plus ou moins codés. On a des figures qui sont plus ou moins reconnaissables, qui relèvent de mythologie, et en particulier d'une mythologie intrinsèque à l'écriture dibienne, tout comme d'ailleurs le cheval des remparts de Mansoura, tout comme le phaéton qui va renverser Abel à un carrefour, le personnage à tête fendue qui se souvient de la mère qui vient expliquer au narrateur quel est son destin et que c'était un destin préétabli, etc. Donc il y a des figures comme ça qui sont qui n'ont rien à voir avec la vraisemblance, qui se rattachent aux mythologies de l'oralité, mais qui appartiennent à la mythologie que le texte dit bien élabore de façon intrinsèque. Et le texte va multiplier ces apparitions qui surgissent à l'improviste pour délivrer un message qui est toujours sibyllin et qui disparaît sans laisser de traces, mais en ayant imprimé une image obsédante dans le récit. Et c'est cette image obsédante qui va diffuser une sorte de mystère et d'angoisse permanente dans les récits. Donc, on a affaire à des personnages qui deviennent de plus en plus des signes et qui vont évoquer les signes à jamais enfouis, comme ceux qui recouvrent la dalle écrite dans le recueil L'Établissement. Ils sont concentrés autour des noms des personnages. Et donc, le problème de la nomination, qui est le problème qui est à l'origine de toute écriture, le problème de la nomination est plus particulièrement dans une écriture dans la langue de l'autre et plus singulièrement dans l'écriture de Dib, qui lui, rappelons-le, est structurée dans la langue française, mais qui a reçu la langue française de la bouche d'une institutrice dont il ne comprenait pas la parole, mais qui l'avait séduit par la musicalité de sa langue. Et la langue française est entrée, j'allais dire, dans son cœur, par l'ouïe, par l'oreille. Tout comme la langue arabe a été imprimée dans son imaginaire au moment où il rentre dans cette séance soufie de dhikr et où il entend cette répétition lancinante des différents noms de Dieu qui conduisent à l'extase. Et donc il est dans un rapport au langage qui est un rapport à la fois de scansion et de musicalité. C'est la raison même qui fait qu'il est d'abord et avant tout poète et qu'en définitive il sera toujours poète. Le genre romanesque dont il hérite est une affaire de femme, on le sait. C'est comme ça qu'est né le roman en Occident. D'abord, le public était féminin, les sujets étaient sujets d'amour, etc. Dans l'imaginaire dit bien, ce sont les narrateurs qui ont la parole, ce sont eux qui racontent. À deux exceptions près, celle de Harfiya dont je vous parlais tout à l'heure, et celle de Feïna dans Le Sommeil d'Ève, qui deviennent narratrices. Mais autrement, tous les autres narrateurs sont masculins. Les femmes parlent peu ou pas du tout. Pourtant, elles bénéficient d'un attribut qui leur permet de communiquer de façon autrement plus efficace que tous les hommes. Ces deux attributs, c'est le regard et le chant. Elles ont donc deux langages qui sont des langages de communication essentiels qui ne sont jamais donnés aux hommes, sauf El-Hajj, dans qui se souvient de la mer, parce que lui connaît le chemin qui va conduire vers la ville du sous-sol, c'est-à-dire la ville du futur. Donc il y a El-Hajj qui peut avoir qui sait chanter. Quand le narrateur, dans qui se souvient de la mer, essaye de fredonner une chanson, Nefissa le fait taire en lui disant « ça ressemble à rien, ton chant ». Et donc, il renonce au chant. Et l'émigré dans les terrasses d'Orsoy, qui gratifie le narrateur d'un regard de l'âme. Et c'est le seul homme qui a un regard féminin, en quelque sorte, un regard qui a le pouvoir des regards féminins. Et ce regard va engloutir le narrateur dans un flot ancien de la parole coranique d'un très lointain passé qui remonte des abîmes d'une mémoire. Ce regard, cet émigré, fait comprendre au narrateur que cette grotte, c'est l'absence de signifié transcendantal dans la ville de Jarber. Et donc, c'est tout le filon du sens qui court depuis le début, qui est un filon mystique et plus précisément soufi, hein, de la pensée soufie. Les attributs féminins, comme le chant et le regard, sont des signes de la préscience qui rend apte à entrer en empathie avec les forces de la nature, les forces du cosmos, et les femmes sont les personnages qui vont dynamiser le dispositif narratif à la place de l'intrigue. Elles promeuvent en tant que signe une esthétique de l'abstraction. Dans cette représentation de la féminité, la femme aimée va se parer d'un attrait mystique jusqu'à fusionner avec la vérité, fusionner avec la quête de la vérité et avec une même soif d'absolu, conformément à l'idéal soufi. On sait que dans le soufisme, la femme est le tremplin qui fait accéder à la vérité ultime. Ce qui inscrit les amours de l'univers dit bien dans une tradition d'amour fou qui est aussi bien Mejnoun Leïla que Hizia, qui est plus maghrébin, que Roméo et Juliette. Vous voyez, toutes ces amours qui ont quelque chose à voir avec la folie et avec la mort. L'autre figure de langue, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le vestige absolu de l'héritage maternel, une sorte de langue primordiale, cette musique que l'on entend dans le sang maternel et dans laquelle on est appelé à s'exprimer, mais qui a été évincée par l'autre. Il importait donc pour lui de rechercher la langue primordiale dans les vestiges enfouis dans le désert. Et c'est là que je retombe sur le désert sans détour. Je vais vous passer tout ce que Reda vous a déjà dit. Dans ce désert sans détour, tout se passe comme si Dib inscrivait la démesure de sa propre recherche, de sa propre quête d'une forme inédite, dans un antécédent glorieux, hein, dans un antécédent illustre, le chevalier de la Manche. Hein, c'est, disons, il fait une parodie de la parodie de Cervantes. Loin de toute chimère d'adéquation entre les mots et les choses. On est dans un univers de la fiction, et en faisant une parodie de la parodie, et en s'installant à un moment historique où le roman naît en Espagne, en Europe de façon générale, où il y a une forme générique qui va s'imposer du fait du passage d'une histoire à une autre histoire, et donc une sorte d'analogie qui s'établit entre ces deux prises de parole. L'entreprise de mise à mal du genre d'importation se poursuit, empruntant des voies connues et inconnues jusqu'à cette provocation finale, à partir de l'arbre à dire. Dib va mettre des indications génériques sur la couverture qui correspondent à rien. Dans Los Angeles Strip, l'auteur, ce sont des vers présentés comme étant un roman. Et l'auteur s'en explique en quatrième de couverture. C'est un roman pour donner du corps à une poésie devenue ectoplasmique. Languissante, épuisée par un impressionnisme à bout de souffle. Et ce sont des vers pour corseter une langue à la fois souffrant de diarrhée chronique et croulant sous ses adipositées depuis qu'elle a cessé de fréquenter l'école du nouveau roman. Donc, en conjuguant les deux genres, il va les revigorer l'un par l'autre. Quoi qu'il en soit, à partir de l'arbre à dire, les désignations s'affolent, les termes nouveaux apparaissent, essais au pluriel, récits, intitulés, se complexifiant, romans en vers, Et pour finir, on a l'AESA, qui est cataloguée nouvelles et notes. Et là, on a dit, affiche ostensiblement l'hétérogénéité générique sa façon à lui de narrer. De fait, la poétique d'Ibienne a mis en place chemin faisant une narration polyphonique qui étoile le texte avec des insertions de séquences théâtrales, comme dans la danse du roi, l'utilisation de didascalie, un tel a dit, c'est la façon de raconter des conteurs de souk sur les places en Algérie. Des didascalies qui empruntent donc au spectacle de souk, et puis une hallucination du texte par le souvenir d'un film, par exemple dans Abel, alternance de morceaux en prose et de morceaux en poésie, comme dans Qui se souvient de la mer, etc., dédoublement du texte en deux typographies différentes. Ce faisant, le travail de Dib rejoint par un chemin très particulier les voies de la modernité textuelle occidentale, dont l'auteur déplore, on l'a vu, l'étiolement depuis le déclin de l'impressionnisme et du nouveau roman. Donc, après toutes ces péripéties, Dib exhume le désert, du désert les atlales qu'il enrôle dans une quête orphique. Les atlales, ce sont ces traces que les nomades laissent au cours de leur déplacement pour indiquer leur passage. Et donc, l'exploration de son identité, qui est nécessairement plurielle, qui est nécessairement tributaire de la rencontre avec les autres, qui est celle qui lui fait, qui produit la révélation de l'autre en soi, le fameux Simorgue de sa publication dernière. Dib atteint alors des hauteurs dans le processus de production du sens qui ne supporte ni le bavardage, ni la surcharge descriptive, qui procède par élimination du superflu, par gommage de l'insignifiant, par renoncement à l'explicite, retrouvant ainsi ce désert primordial et le signe qui l'habite, signe qui synthétise le sens et préserve sa capacité à condenser la démultiplication des significations, signe qu'on croyait effacé, mais qui a laissé une trace mnémonique tenace qui raconte une histoire d'amnésie amarrée à une grande histoire politique et sociale particulièrement turbulente. Son écriture, que l'on dirait de pure lignée française, par le phrasé de sa langue qui coule de source, s'avère mue par une scansion d'une autre langue et ne saurait être lue en faisant abstraction de la psalmodie coranique qui la nimbe de partout. Cet alliage, Dib en découvre le secret de fabrication progressivement, en remettant sans cesse l'ouvrage sur le métier, non pas que l'on puisse parler de progrès dans la méthode, mais parce que, au fur et à mesure, sont exhumées les strates profondes d'un imaginaire enfoui, des atlales qui renvoient explicitement à cette esthétique de l'abstraction qui spécifie les arts arabo-persans, tout en s'apparentant aux formes avant-gardistes des arts occidentaux. La découverte précisément de l'abstraction par l'art occidental. Dib rappelle que le signe qui informe toute esthétique de l'abstraction nous est venu avant la parole, et il en fait le garant de sa mémoire ancestrale et le vecteur de la perception du cosmos et de sa symbolisation. Alors que le destin d'écrivain de Dib s'affirme essentiellement comme romancier, jamais il n'entérinera la dissociation entre prose et poésie, et à jamais, pour lui, le poème sera le latent du roman, et le roman, un poème inexprimé. Aussi, ces romans sont-ils en définitive des contes poétiques, des utopies, des romans qui pensent, des romans philosophiques, en somme. Quoi qu'il en soit, nous pourrions faire l'expérience de relire le texte d'Ibien, non pas comme un roman qui aurait intégré des formes génériques venant de sa culture du terroir, mais comme une qasida, une geste de la tradition narrative maghrébine qui, elle, passe du morceau poétique au morceau prosaïque, de la narration à l'évocation et qui mélange les genres, le comique, le tragique, etc. Et donc, si on relisait ce texte, non plus comme un roman, mais comme une qasida qui chante une aventure sensible et intellectuelle, contemporaine, autrement dit, une littérature sans frontières. Thank you.